Marguerite Audoux, Marie-Claire, première partie. Un jour, il vint beaucoup de monde chez nous. Les hommes entraient, comme dans une église, et les femmes faisaient le signe de croix en sortant. Je me glissai dans la chambre de mes parents, et je fus bien étonné de voir que ma mère avait une grande bougie allumée près de son lit. Mon père se penchait sur le pied du lit pour regarder ma mère qui dormait, les mains croisées sur sa poitrine. Notre voisine, la mère Colas, nous garda tout le jour chez elle. À toutes les femmes qui sortaient de chez nous, elle disait « Vous savez, elle n'a pas voulu embrasser ses enfants. » Les femmes se mouchaient en nous regardant, et la mère Colas ajoutait « Ces maladies-là, ça rend méchant. » Les jours qui suivirent, nous avions des robes à larges carreaux blancs et noirs. La mère Colas nous donnait à manger et nous envoyait jouer dans les champs. Ma sœur, qui était déjà grande, s'enfonçait dans les haies, grimpait aux arbres, fouillait dans les mares et revenait le soir les poches pleines de bêtes de toutes sortes qui me faisaient peur et mettaient la mère Colas bien en colère. J'avais surtout une grande répugnance pour les vers de terre. Cette chose rouge et élastique me causait une horreur sans nom, et s'il m'arrivait d'en écraser un par mégarde, j'en ressentais de longs frissons de dégoût. Les jours où je souffrais de points de côté, la mère Colas défendait à ma sœur de s'éloigner. Mais ma sœur s'ennuyait et voulait quand même m'emmener. Alors elle ramassait des vers qu'elle laissait grouiller dans ses mains en les approchant de ma figure. Aussitôt je disais que je n'avais plus mal et je me laissais traîner dans les champs. Une fois, elle m'en jeta une grosse poignée sur ma robe. Je reculais si précipitamment que je tombais dans un chaudron d'eau chaude. La mère Colas se lamentait en me déshabillant. Je n'avais pas grand mal. Elle promit une bonne fessée à ma sœur, et comme les ramoneurs passaient devant chez nous, elle les appela pour l'emmener. Ils entrèrent tous les trois avec leurs sacs et leurs cordes. Ma sœur criait et demandait pardon, et moi j'avais bien honte d'être toute nue. Mon père nous emmenait souvent dans un endroit où il y avait des hommes qui buvaient du vin. Il me mettait debout entre les verres pour me faire chanter la complainte de Geneviève de Brabant. Tous ces hommes riaient, m'embrassaient et voulaient me faire boire du vin. Il faisait toujours nuit quand nous revenions chez nous. Mon père faisait de grands pas en se balançant. Il manquait souvent de tomber. Parfois, il se mettait à pleurer tout haut en disant qu'on avait changé sa maison. Alors ma sœur poussait des cris et, malgré la nuit, c'était toujours elle qui finissait par retrouver notre maison. Il arriva un matin que la mère Colas nous accabla de reproches, disant que nous étions des enfants de malheur, qu'elle ne nous donnerait plus à manger, et que nous pouvions bien aller retrouver notre père qui était parti, on ne savait où. Quand sa colère fut passée, elle nous donna à manger comme d'habitude. Mais quelques instants après, elle nous fit monter dans la carriole du père Chicon. La carriole était pleine de paille et de sacs de grains. J'étais placé derrière, dans une sorte de niche, entre les sacs. La voiture penchait en arrière, et chaque secousse me faisait glisser sur la paille. J'eus une très grande peur tout le long de la route. À chaque glissade, je croyais que la carriole allait me perdre, ou bien que les sacs allaient s'écrouler sur moi. On s'arrêta devant une auberge. Une femme nous fit descendre, secoua la paille de nos robes et nous fit boire du lait. Tout en nous caressant, elle disait au père Chicon « Alors, vous pensez que leur père les voudra ?» Le père Chicon branla la tête en cognant sa pipe contre la table. Il fit une grimace avec sa grosse lèvre et y répondit. Il est peut-être parti encore plus loin. Le fils à Girard m'a dit qu'il l'avait rencontré sur la route de Paris. Le père Chicon nous mena ensuite dans une belle maison où il y avait un perron avec beaucoup de marches. Il causa longtemps avec un monsieur qui faisait de grands gestes et qui parlait de Tour de France. Le monsieur mit sa main sur ma tête et il répéta plusieurs fois. Il ne m'avait pas dit qu'il avait des enfants. Je compris qu'il parlait de mon père, et je demandai à le voir. Le monsieur me regarda sans répondre, puis il demanda au père Chicon. « Quel âge a donc celle-ci »« Dans les 5 ans, dit le vieux. » Pendant ce temps, ma sœur jouait sur les marches avec un petit chat. La carriole nous ramena chez la mère Colas, qui nous reçut en bougonnant et en nous bousculant. Quelques jours après, elle nous fit monter en chemin de fer, et le soir même, nous étions dans une grande maison où il y avait beaucoup de petites filles. Sœur Gabrielle nous sépara tout de suite. Elle dit que ma sœur était assez grande pour aller aux moyennes, tandis que moi je resterais aux petites. Sœur Gabrielle était toute petite, vieille, maigre et courbée. Elle dirigeait le dortoir et le réfectoire. Au dortoir, elle passait un bras sec et dur entre notre chemise et le drap pour s'assurer de notre propreté, et elle fouettait à heure fixe et avec des verges celles dont les draps étaient humides. Au réfectoire, elle faisait la salade dans une immense terrine jaune. Les manches retroussées jusqu'aux épaules, elle plongeait et replongeait dans la salade ses deux bras noirs et noueux qui sortaient de là, tout luisants et gouttelants, et qui me faisaient penser à des branches mortes les jours de pluie. J'eus tout de suite une amie. Je la vis venir vers moi en se dandinant, l'air effronté. Elle n'était guère plus haute que le banc sur lequel j'étais assise. Elle appuya ses coudes sans façon sur moi et elle me dit « Pourquoi ne joues-tu pas ?» Je répondis que j'avais mal au côté. « Ah oui, reprit-elle, ta maman était poitrinaire et sœur Gabrielle a dit que tu mourrais bientôt. » Elle grimpa sur le banc, s'assit en faisant disparaître sous elle ses petites jambes. Puis elle me demanda mon nom, mon âge, m'apprit qu'elle s'appelait Isméry, qu'elle était plus vieille que moi et que le médecin disait qu'elle ne grandirait jamais. Elle m'apprit aussi que la maîtresse de classe s'appelait sœur Marie-Aimée, qu'elle était très méchante et punissait sévèrement les bavardes. Elle sauta tout d'un coup sur ses pieds en criant « Augustine !» Sa voix était comme celle d'un garçon, et ses jambes étaient un peu tordues. À la fin de la récréation, je l'aperçus sur le dos d'Augustine, qui la balançait d'une épaule sur l'autre comme pour la jeter à terre. En passant devant moi, elle me cria de sa grosse voix « Tu me porteras aussi, dis ?» Je fis bientôt la connaissance d'Augustine. Un mal d'yeu que j'avais s'aggrava. La nuit, mes paupières se collaient l'une contre l'autre, de sorte que j'étais complètement aveugle jusqu'à ce qu'on me les eût baignées. Ce fut elle qui fut chargée de me conduire à l'infirmerie. Tous les matins, elle venait me prendre au petit dortoir. Je l'entendais venir depuis la porte. Ce n'était pas long. Elle me saisissait la main et m'entraînait du même pas qu'elle était venue, sans s'occuper si je me cognais au lit. Nous traversions les couloirs comme le vent et descendions les deux étages comme une avalanche. Mes pieds rencontraient une marche de temps en temps. Je descendais comme on tombe dans le vide. Augustine avait une main ferme qui me tenait solidement. Pour aller à l'infirmerie, il fallait passer derrière la chapelle, puis devant une petite maison toute blanche. Là, on redoublait de vitesse. Un jour que, n'en pouvant plus, j'étais tombé sur les genoux, elle me releva avec une tape sur la tête en disant « Dépêche-toi donc, on est devant la maison des morts. » Tous les jours ensuite, dans la crainte que je tombe, elle m'avertissait que nous étions devant la maison des morts. J'avais surtout peur de la peur d'Augustine. Puisqu'elle courait si fort, c'est qu'il y avait du danger. J'arrivais à l'infirmerie en nage et sans souffle. Quelqu'un me poussait sur une petite chaise et mon point de côté était passé depuis longtemps quand on venait me laver les yeux. Ce fut encore Augustine qui me conduisit dans la classe de sœur Marie-Aimée. Elle prit une voix timide pour dire « Ma sœur, voilà la nouvelle. » Je m'attendais à une rebuffade, mais sœur Marie-Aimée me sourit, m'embrassa plusieurs fois et dit « Tu es trop petite pour être sur un banc. Je vais te mettre ici. » Et elle me fit asseoir sur un petit banc, dans le creux de son pupitre. Comme il y faisait bon dans ce creux de pupitre, comme la chaleur des jupes de laine caressait mon corps tout meurtri par les escaliers de bois et de pierre. Souvent, deux pieds se posaient de chaque côté de mon petit banc, et je me trouvais étroitement enclavé entre deux jambes nerveuses et chaudes. Une main tâtonnante m'appuyait la tête sur les jupes entre les genoux, et sous cette main douce et sur cet oreiller chaud, je m'endormais. Quand je m'éveillais, l'oreiller se transformait en table. La même main y déposait des débris de gâteaux, de menus morceaux de sucre et quelques bonbons. Autour de moi, j'entendais vivre le monde. Une voix pleurait. « Non, ma sœur, ce n'est pas moi !» Des voix criardes disaient « Si, ma sœur, c'est elle !» Au-dessus de ma tête, une voix pleine et chaude imposait silence, en s'accompagnant de coups de règle sur le pupitre qui résonnait et faisait dans mon creux un bruit énorme. Parfois, il se faisait un grand mouvement. Les pieds se retiraient de mon petit banc, les genoux se rapprochaient, la chaise remuait, et je voyais se pencher vers mon nid une guimpe blanche, un menton mince, des dents fines et pointues, et enfin deux yeux caressants qui m'apportaient la confiance. Aussitôt que mon mal-dieu fut guéri, un alphabet s'ajouta aux friandises. C'était un petit livre où il y avait des images à côté des mots. Je regardais souvent une grosse fraise que j'imaginais au moins aussi grosse qu'une brioche. Quand il ne fit plus froid dans la classe, Sœur Marie-Aimée me plaça sur un banc entre Isméry et Marie-Renaud, qui étaient mes voisines de lit. De temps en temps, elle me permettait de revenir à mon cher creux où je trouvais des livres avec des histoires qui me faisaient oublier l'heure. Un matin, Isméry m'entraîna en grand mystère pour m'apprendre que Sœur Marie-Aimée ne ferait plus la classe parce qu'elle allait prendre la place de Sœur Gabrielle pour le dortoir et le réfectoire. Elle ne me dit pas où elle avait appris cela, mais elle en était toute chagrinée. Elle aimait beaucoup Sœur Gabrielle, qui la traitait toujours comme un petit enfant. Mais elle n'aimait pas cette sœur aimée, ainsi qu'elle l'appelait avec un air de mépris, quand elle savait n'être entendue que de nous. Elle disait aussi que Sœur Marie-Aimée ne lui permettrait pas de nous grimper sur le dos, et qu'on ne pourrait pas se moquer d'elle, comme de Sœur Gabrielle qui montait les marches toutes de travers. Le soir, après la prière, Sœur Gabrielle nous annonça son départ. Elle nous embrassa toutes, en commençant par les plus petites. La montée au dortoir se fit en grand désordre. Les grandes chuchotaient et se révoltaient à l'avance contre cette sœur Marie-Aimée. Les petites pleurnichaient comme à l'approche d'un danger. Isméry, que je portais sur mon dos, pleurait bruyamment, ses petits doigts m'étranglaient un peu et ses larmes me tombaient dans le cou. Personne ne pensait à rire de sœur Gabrielle qui montait péniblement en disant « chut, chut » sans se lasser et sans que le bruit diminuât. La bonne du petit dortoir pleurait aussi. Elle me secoua un peu en me déshabillant. Elle disait « Je suis sûre que tu es contente, toi, d'avoir ta sœur Marie-Aimée. » Nous l'appelions Bonne Esther. Des trois bonnes que nous avions, c'était elle que je préférais. Elle était un peu bourrue, mais elle nous aimait bien. La nuit, elle réveillait celles qui avaient de mauvaises habitudes afin de leur épargner les verges du lendemain. Quand je toussais, elle se levait et à tâtons me fourrait dans la bouche un morceau de sucre mouillé. Bien des fois aussi, elle m'avait emporté de mon lit, où j'étais glacé, pour me réchauffer dans le sien. Le lendemain, on entra en grand silence au réfectoire. Les bonnes nous ordonnèrent de rester debout. Plusieurs grandes se tenaient très droites, avec un air fier. Bonne Justine restait humble et triste au bout de la table, tandis que bonne Néron, qui avait l'air d'un gendarme, faisait les 100 pas au milieu du réfectoire. Elle regardait souvent la pendule en haussant dédaigneusement les épaules. Sœur Marie-Aimée entra en laissant la porte ouverte derrière elle. Elle me parut plus grande, avec son tablier blanc et ses manches blanches. Elle marchait lentement en regardant tout le monde. Le chapelet qui pendait à son côté faisait entendre un petit bruit et sa jupe se balançait un peu dans le bas. Elle monta les trois marches de son estrade et nous fit asseoir d'un geste de la main. L'après-midi, elle nous mena dans la campagne. Il faisait très chaud. J'allais m'asseoir près d'elle, sur une hauteur. Elle lisait un livre en surveillant d'un coup d'œil les petites filles qui jouaient dans un champ au-dessous de nous. Elle regarda longtemps le soleil couchant en disant à chaque instant « Que c'est beau! Que c'est beau !» Le soir même, les verges disparurent du petit dortoir et au réfectoire, la salade fut retournée avec de longues spatules. À part cela, rien ne fut changé. Nous allions en classe de 9h à midi et l'après-midi, nous épluchions des noix pour un marchand d'huile. Les plus grandes les cassaient avec un marteau et les plus petites les séparaient des coquilles. Il était bien défendu d'en manger, et surtout ce n'était pas facile. Il s'en trouvait toujours une pour vous dénoncer, par jalousie de gourmandise. C'était Bonne Esther qui nous regardait dans la bouche. Quelquefois, elle s'attardait à une incorrigible gourmande. Alors elle lui faisait les gros yeux, puis elle lui disait, en la renvoyant d'une taloche, « J'ai l'œil sur toi. » Nous étions quelques-unes en qui elle avait grande confiance. Elle nous faisait pivoter en faisant semblant de nous regarder, et elle disait en riant « Ferme ton bec ». J'avais souvent envie d'en manger, mais les bons yeux de Bonne Esther passaient devant moi et je rougissais à l'idée de tromper sa confiance. À la longue, l'envie devint si forte que je ne pensais plus qu'à cela. Pendant des jours et des jours, je cherchais le moyen d'en manger sans me faire prendre. J'essayais d'en cacher dans mes manches, mais j'étais si maladroite que je les perdais aussitôt. Et puis, j'avais envie d'en manger beaucoup, beaucoup. Il me semblait que j'en aurais mangé un plein sac. Un jour, enfin, je trouvai l'occasion. Bonne Esther, qui nous menait coucher, glissa sur une coquille et lâcha sa lanterne qui s'éteignit. Comme je me trouvais à côté d'une bassine pleine, j'en pris une grosse poignée que je fourrai dans ma poche. Aussitôt que tout le monde fut couché, je sortis les noix de ma poche et, la tête sous les draps, j'en pris ma pleine bouche. Mais aussitôt, il me sembla que tout le dortoir entendait le bruit que faisaient mes mâchoires. J'avais beau croquer doucement et lentement, le bruit cognait dans mes oreilles comme des coups de maillet. Bonne Esther se leva, elle alluma la lampe, regarda sous les lits en se baissant. Quand elle fut près de moi, je la regardai, épouvantée. Elle me dit tout bas, « Tu ne dors donc pas ?» Puis elle continua ses recherches. Elle alla jusqu'au bout du couloir, ouvrit et referma la porte. Mais à peine était-elle recouchée et la lampe éteinte que le loquet de la porte tapa comme si on l'ouvrait. Bonne Esther ralluma encore la lampe et dit, « Ça c'est trop fort, ce n'est pourtant pas la chatte qui ouvre la porte toute seule. » Il me semblait qu'elle avait peur. Je l'entendais remuer dans son lit, et tout à coup, elle se mit à crier « Mon Dieu ! Mon Dieu !» Isméri lui demanda ce qu'elle avait. Elle nous dit qu'une main ouvrait la porte à la chatte, et qu'elle venait de sentir un grand souffle sur son visage. Dans la demi-clarté, on voyait la porte entr'ouverte. Et j'étais très effrayé. Je pensais que c'était le démon qui venait me chercher. Au bout d'un long moment, on n'entendait plus rien. Bonne Esther demanda si l'une de nous voulait bien se lever pour souffler la lampe qui n'était cependant pas très loin de son lit. Personne ne répondit. Alors elle m'appela. Je me levai pendant qu'elle disait « Toi qui es si sage, les revenants ne te feront rien. » Elle se tut en même temps que je soufflais la lampe et tout de suite je vis des milliers de points brillants pendant que je sentais un grand froid sur les joues. Je devinais sous les lits des dragons verts avec des gueules tout enflammées. Je sentais leurs griffes sur mes pieds et des lumières sautaient de chaque côté de ma tête. J'éprouvais un grand besoin de m'asseoir. En arrivant à mon lit, je croyais fermement qu'il me manquait les deux pieds. Quand j'osais m'en assurer, je les trouvais bien froids et je finis par m'endormir en les tenant dans mes deux mains. Au matin, Bonne Esther trouva la chatte sur un lit près de la porte. Elle avait fait ses petits pendant la nuit. On rapporta l'histoire à sœur Marie-Aimée. Elle répondit que c'était sûrement la chatte qui avait ouvert la porte en se dressant vers le loquet. Mais la chose ne fut jamais bien éclaircie, et les petites en causèrent longtemps tout bas. La semaine suivante, toutes celles qui avaient 8 ans descendirent au grand dortoir. J'eus un lit placé près d'une fenêtre, tout près de la chambre de sœur Marie-Aimée. Marie Renaud et Isméry restèrent mes voisines. Souvent, quand nous étions couchés, sœur Marie-Aimée venait s'asseoir près de ma fenêtre. Elle me prenait une main qu'elle caressait tout en regardant dehors. Une nuit, il y eut un grand feu dans le voisinage. Tout le dortoir était éclairé. Sœur Marie-Aimée ouvrit la fenêtre toute grande. Puis elle me secoua en disant « Réveille-toi, viens voir le feu !» Elle me passait la main sur le visage pour me réveiller en me répétant « Viens voir le feu, viens voir comme c'est beau !» J'avais si envie de dormir que je laissais tomber ma tête sur mon épaule. Alors elle me donna une bonne gifle en m'appelant « petite brute ». Cette fois j'étais réveillé et je me mis à pleurer. Elle me prit de nouveau dans ses bras, elle s'assit et me berça en me tenant serré contre elle. Elle avançait la tête vers la croisée. Son visage était comme transparent et ses yeux étaient pleins de lumière. Isméry aurait bien voulu que sœur Marie-Aimée ne vînt jamais vers la fenêtre. Cela l'empêchait de bavarder. Elle avait toujours quelque chose à dire. Sa voix était si forte qu'on l'entendait à l'autre bout du dortoir. Sœur Marie-Aimée disait « Voilà encore Isméry qui parle !» Isméry répondait « Voilà encore Sœur Marie-Aimée qui gronde !» J'étais confondu de son audace. Je pensais que Sœur Marie-Aimée faisait semblant de ne pas l'entendre. Pourtant, un jour, elle lui dit « Je vous défends de répondre, espèce de naine !» Ismeri cria « Mon gnouf !» C'était un mot dont nous nous servions entre nous et qui voulait dire « Regarde mon nez si je t'écoute !» Sœur Marie-Aimée s'élança vers le martinet. Je tremblais pour le petit corps d'Ismeri, mais elle se jeta à plat ventre, en gigotant et se tordant avec des cris bizarres. Sœur Marie-Aimée la poussa du pied avec dégoût. Elle dit en lançant le martinet au loin « Quelle affreuse petite créature !» Dans la suite, elle évitait de la regarder et ne paraissait pas entendre ses insolences. Toutefois, elle nous défendait sévèrement de la porter sur notre dos. Cela n'empêchait pas Ismeri de grimper après moi comme un singe. Je n'avais pas le courage de la repousser et, en me baissant un peu, je la laissai s'installer sur mon dos. Cela se passait surtout en montant au dortoir. Elle avait une grande difficulté à enjamber les marches, elle en riait elle-même, elle disait qu'elle montait comme les poules. Comme sœur Marie-Aimée était toujours en avant, je tâchais de me trouver dans les dernières. Il arrivait parfois qu'elle se retournait brusquement, alors Ismeri glissait le long de moi avec une rapidité et une adresse étonnantes. Je restais toujours un peu gêné sous le regard de sœur Marie-Aimée, et Ismeri ne manquait jamais de me dire « Tu vois comme tu es bête, tu t'es encore fait prendre. » Elle n'avait jamais pu grimper sur Marie-Renaud, qui la repoussait toujours en disant qu'elle usait et salissait nos robes. Si Ismeri était bavarde, par contre, Marie-Renaud ne causait jamais. Chaque matin, elle m'aidait à faire mon lit. Elle passait soigneusement ses mains sur les draps pour lisser les cassures. Elle refusait obstinément mon aide pour faire le sien, prétendant que je roulais les draps n'importe comment. J'étais toujours stupéfaite de voir que son lit n'avait aucun désordre à son lever. Elle finit par me confier qu'elle épinglait ses draps et ses couvertures après son matelas. Elle avait une quantité de petites cachettes pleines de toutes sortes de choses. À table, elle mangeait toujours un bout du dessert de la veille. Celui du jour restait dans sa poche. Elle le caressait et en mangeait un petit morceau de temps en temps. Je la trouvais souvent dans les coins, en train de faire de la dentelle avec une épingle. Sa plus grande joie était de brosser, plier et ranger. Aussi, grâce à elle, mes souliers étaient toujours bien cirés et ma robe des dimanches soigneusement pliée. Cela dura jusqu'au jour où il vint une nouvelle bonne qui s'appelait Madeleine. Elle ne fut pas longtemps à s'apercevoir que je n'étais pour rien dans le bon arrangement de ma toilette. Elle se mit à crier en me traitant de mijaurée, de grande feignante, disant que je me faisais servir comme une demoiselle et que c'était honteux de faire travailler cette pauvre Marie-Renaud qui n'avait pas 2 liards de vie. Bonne Néron se mit d'accord avec elle pour dire que j'étais une orgueilleuse, que je me croyais au-dessus de tout le monde, que je ne faisais jamais rien comme les autres, qu'elle n'avait jamais vu une fille comme moi et que j'étais dépareillée. Elles criaient toutes deux à la fois en se tenant penchées sur moi. Je pensais à 2 fées braillardes, une noire et une blanche. Bonne Néron, si haute et si noire, et Madeleine, si blonde et si fraîche, avec de grosses lèvres ouvertes, ses dents si écartées et sa langue large et épaisse qui remuait et poussait de la salive au coin de sa bouche. Bonne Néron leva la main sur moi et dit « Voulez-vous baisser les yeux ?» Elle ajouta en s'éloignant. « C'est qu'elle vous fait honte quand elle vous regarde comme cela. » Je savais depuis longtemps que Bonne Néron ressemblait à un taureau, mais il me fut impossible de trouver à quelle bête ressemblait Madeleine. J'y pensais pendant plusieurs jours en repassant dans ma tête le nom de toutes les bêtes que je connaissais, et je finis par y renoncer. Elle était grasse, et elle marchait en fléchissant les reins. Elle avait une voix perçante qui surprenait tout le monde. Elle demanda à chanter à la chapelle, mais comme elle ne savait pas les cantiques, Sœur Marie-Aimée me chargea de les lui apprendre. Marie-Renaud put recommencer de brosser et plier mes habits sans que personne eût l'air de s'en apercevoir. Elle était si contente qu'elle me fit cadeau d'une épingle double pour attacher mon mouchoir que je perdais toujours. 2 jours après, j'avais perdu l'épingle et le mouchoir. Oh, ce mouchoir, quel cauchemar épouvantable! Maintenant encore, quand j'y pense, une angoisse me prend. Pendant des années, je perdis régulièrement 1 mouchoir par semaine. Sœur Marie-Aimée nous remettait un mouchoir propre contre le sale que nous jetions à terre devant elle. J'y pensais seulement à ce moment-là. Alors, je retournais toutes mes poches. Je courais comme une folle dans les dortoirs, dans les dortoirs, dans les couloirs, jusqu'au grenier. Je cherchais partout. Mon Dieu, pourvu que je trouve un mouchoir. En passant devant la Vierge, je joignais les mains avec ferveur. Mère admirable, faites que je trouve un mouchoir. Mais je n'en trouvais pas, et je redescendais, rouge, essoufflé, penaude, n'osant pas prendre celui que me tendait sœur Marie-Aimée. J'entendais d'avance le reproche si mérité. Les jours où je n'entendais pas de reproche, je voyais un front plissé, des yeux courroucés qui me suivaient longtemps sans se détourner. J'étais si écrasé de honte que je pouvais à peine lever les pieds. Je marchais tout effacé, sans remuer le corps. Et malgré cela, je perdais encore mon mouchoir. Madeleine me regardait avec un air de fausse compassion, et elle ne pouvait pas s'empêcher de me dire que je méritais une sévère punition. Elle paraissait très attachée à sœur Marie-Aimée. Elle la servait attentivement et fondait en larmes aux moindres reproches. Elle avait des crises de gros sanglots que sœur Marie-Aimée calmait en lui caressant les joues. Alors, elle riait et pleurait tout à la fois. Elle avait un mouvement des épaules qui laissait voir son cou blanc et qui faisait dire à Bonne Néron qu'elle avait l'air d'une chatte. Bonne Néron s'en alla un jour après une scène, au milieu du déjeuner, alors qu'il régnait un grand silence. Elle cria tout à coup « Oui, je veux m'en aller, et je m'en irai !» Comme sœur Marie-Aimée la regardait tout étonnée, elle lui fit face en baissant la tête qu'elle secouait et lançait en avant, criant plus fort qu'elle ne souffrirait pas plus longtemps d'être commandée par une morveuse. Oui, une morveuse. Elle était arrivée à reculons près de la porte. Elle l'ouvrit tout en donnant de furieux coups de tête et, avant de disparaître, elle lança son grand bras dans la direction de sœur Marie-Aimée et avec un profond mépris, elle dit « Ce n'a pas seulement 25 ans ». Quelques petites filles étaient terrifiées. D'autres éclatèrent de rire. Madeleine eut une véritable crise de nerfs. Elle se jeta aux genoux de sœur Marie-Aimée en lui enlaçant les jambes et en embrassant sa robe. Elle lui prit les mains qu'elle frotta contre sa grosse bouche humide. Tout cela en poussant des cris, comme si une catastrophe épouvantable était arrivée. Sœur Marie-Aimée n'arrivait pas à se dégager. Elle finit par se fâcher. Alors Madeleine s'évanouit en tombant sur le dos. Tout en la dégrafant, sœur Marie-Aimée fit un signe de mon côté. Croyant qu'elle avait besoin de mes services, j'accourus. Mais elle me renvoya. « Non, pas toi, Marie-Renaud. » Elle lui remit ses clés. Et bien que Marie-Renaud ne fût jamais entrée dans la chambre de sœur Marie-Aimée, elle trouva tout de suite le flacon demandé. Madeleine se remit très vite, et en prenant la place de Bonne Néron, elle prit de l'autorité. Elle restait timide et soumise devant sœur Marie-Aimée, mais elle se rattrapait sur nous, en braillant à tout propos qu'elle était notre surveillante et non pas notre bonne. Le jour de son évanouissement, j'avais vu ses seins, qui m'avaient paru si beaux que je n'avais encore rien imaginé de pareil. Mais je la trouvais bête et ne faisais aucun cas de ses remontrances. Cela la mettait en colère. Elle me criblait de mots grossiers et finissait toujours par me traiter d'espèce de princesse. Elle ne pouvait supporter l'affection que me montrait sœur Marie-Aimée. Et quand elle la voyait m'embrasser, elle rougissait de dépit. Je commençais à grandir et j'étais assez bien portante. Sœur Marie-Aimée disait qu'elle était fière de moi. Elle me serrait si fort en m'embrassant qu'elle me faisait mal. Puis elle disait, en posant délicatement ses doigts sur mon front, « Ma petite fille, mon petit enfant ». Pendant les récréations, je restais souvent près d'elle. Je l'écoutais lire. Elle lisait d'une voix profonde et mordante, et quand les personnages lui déplaisaient par trop, elle fermait violemment le livre et se mêlait à nos jeux. Elle eût voulu me voir sans défaut. Elle répétait souvent « Je veux que tu sois parfaite, entends-tu ? Parfaite !» Un jour, elle crut que j'avais menti. Nous avions 3 vaches qui paissaient quelquefois sur une pelouse au milieu de laquelle se trouvait un énorme marronnier. La vache blanche était méchante et nous en avions peur parce qu'elle avait déjà piétiné une petite fille. Ce jour-là, je vis les 2 vaches rouges et directement sous le marronnier, une belle vache noire. Je dis à Ismérie, « Tiens, on a changé la vache blanche, sans doute parce qu'elle était méchante. » Ismérie, qui était de mauvaise humeur, se mit à crier, disant que je me moquais toujours des autres, en voulant leur faire croire des choses qui n'existaient pas. Je lui montrai la vache. Elle soutint que c'était la blanche. Moi, je soutenais que c'était une noire. Sœur Marie-Aimée entendit. Elle paraissait outrée quand elle me dit « Comment peux-tu soutenir que cette vache est noire ?» À ce moment, la vache se déplaça. Elle paraissait maintenant noire et blanche, et je compris que c'était l'ombre du marronnier qui m'avait trompé. J'étais si stupéfaite que je ne trouvais rien à répondre, et je ne savais comment expliquer cela. Sœur Marie-Aimée me secoua violemment. « Pourquoi as-tu menti ? Allons, réponds, pourquoi as-tu menti ?» Je répondis que je ne savais pas. Elle m'envoya en pénitence sous le hangar, en m'assurant que je n'aurais comme nourriture que du pain et de l'eau. Comme je n'avais pas menti, la pénitence me laissa indifférente. Sous ce hangar, il n'y avait que de vieilles armoires et des choses servant au jardinage. Je grimpais d'une chose sur l'autre et je me trouvais bientôt assise sur la plus haute armoire. J'avais 10 ans et c'était la première fois que je me trouvais seule. J'en ressentis comme un contentement. Tout en balançant mes jambes, j'imaginais tout un monde invisible. Une vieille armoire à ferrure rouillée devint l'entrée d'un palais magnifique. J'étais une petite fille abandonnée sur une montagne. Une belle dame, vêtue comme une fée, m'avait aperçue et venait me chercher. Des chiens merveilleux couraient devant elle. Ils étaient presque à mes pieds, lorsque je vis devant l'armoire aux ferrures Sœur Marie-Aimée qui regardait de tous côtés. Je ne savais pas que j'étais assise sur un meuble. Je me croyais encore sur la montagne et j'étais seulement ennuyée que l'arrivée de Sœur Marie-Aimée eût fait disparaître le palais avec tous ses personnages. Elle me découvrit au balancement de mes jambes et je m'aperçus en même temps que j'étais sur une armoire. Elle resta un moment, les yeux levés vers moi. Puis elle tira de la poche de son tablier un morceau de pain, un bout de boudin, une petite fiole de vin, me montra chaque chose l'une après l'autre. Et, la voix fâchée, elle dit « C'était pour toi. Eh bien voilà. » Elle remit le tout dans sa poche et s'en alla. Un instant après, Madeleine m'apporta du pain et de l'eau et je restai jusqu'au soir sous le hangar. Depuis quelque temps, Sœur Marie-Aimée devenait triste. Elle ne jouait plus avec nous. Souvent, elle oubliait l'heure de notre dîner. Madeleine m'envoyait la chercher à la chapelle, où je la trouvais à genoux, le visage caché dans ses mains. Il me fallait la tirer par sa robe pour me faire entendre. Il me sembla plusieurs fois qu'elle avait pleuré, mais je n'osais pas la regarder de peur de la fâcher. Elle paraissait tout absorbée, et quand on lui parlait, elle répondait par oui ou par non d'un ton sec. Pourtant, elle s'occupa activement d'une petite fête que nous faisions tous les ans à Pâques. Elle fit apporter les gâteaux que l'on rangea sur une table, en les recouvrant d'une nappe blanche pour ne pas donner trop de tentations aux gourmandes. Le dîner s'était passé au milieu d'un babillage énorme, à cause de la permission que nous avions de causer à table les jours de fête. Sœur Marie-Aimée nous avait servi avec son bon sourire et une bonne parole pour chacune. Elle se disposait à nous servir les gâteaux, en se faisant aider par Madeleine pour enlever la nappe qui les recouvrait. À ce moment, la chatte qui était dessous sauta à terre et se sauva. Sœur Marie-Aimée et Madeleine poussèrent ensemble un « Ah !» prolongé. Puis Madeleine cria « La sale bête ! Elle a mordu à tous les gâteaux !» Sœur Marie-Aimée n'aimait pas la chatte. Elle resta un moment immobile, puis elle courut prendre un bâton et se lança après la bête. Ce fut une course épouvantable. La chatte, affolée, sautait de tous côtés, échappant au bâton qui ne frappait que les bancs et les murs. Toutes les petites filles, prises de peur, se sauvaient vers la porte. Sœur Marie-Aimée les arrêta d'un mot. Que personne ne sorte. Elle avait un visage que je ne connaissais pas. Ses lèvres rentrées, ses joues aussi blanches que sa cornette, et ses yeux qui faisaient du feu me semblèrent si effrayants que je cachais ma figure dans mon bras. Malgré moi, je regardais de nouveau. La poursuite continuait. Sœur Marie-Aimée, le bâton haut, courait en silence. Ses lèvres s'étaient ouvertes et on voyait ses petites dents pointues. Elle courait dans tous les sens, sautant les bancs, montant sur les tables en relevant rapidement ses jupes. Au moment où elle allait l'atteindre, la chatte fit un bond formidable et s'accrocha après un rideau tout en haut d'une fenêtre. Madeleine, qui avait suivi Sœur Marie-Aimée avec des mouvements de jeune chien un peu lourd, voulut aller chercher un bâton plus long. Mais Sœur Marie-Aimée l'arrêta d'un geste en disant « Elle a bien fait de s'échapper. » Bonne Justine, qui était près de moi, disait en se cachant les yeux « Oh, c'est honteux, c'est honteux !» Moi aussi, je trouvais que c'était honteux. Une sorte de déconsidération me venait pour sœur Marie-Aimée, que j'avais toujours crue sans défaut. Je comparais cette scène avec une autre qui s'était passée un jour de grand orage. Combien j'avais trouvé sœur Marie-Aimée au-dessus de tout ce jour-là. Je la revoyais montée sur un banc. Elle fermait tranquillement les hautes fenêtres en élevant ses beaux bras dont les larges manches se rabattaient sur ses épaules et, pendant que nous étions épouvantés par les éclairs et les coups de vent furieux, elle disait d'une voix calme « Mais c'est un ouragan !» Maintenant, sœur Marie-Aimée faisait reculer les petites filles au fond de la salle. Elle ouvrait la porte toute grande à la chatte qui sortit en trois bonds. L'après-midi, je fus bien étonné de voir que ce n'était pas notre vieux curé qui disait les vêpres. Celui-ci était grand et fort. Il chantait d'une voix forte et saccadée. Toute la soirée, on parla de lui. Madeleine disait que c'était un bel homme, et sœur Marie-Aimée trouva qu'il avait la voix jeune, mais qu'il prononçait les mots comme un vieillard. Elle dit aussi qu'il avait la démarche jeune et distinguée. Quand il vint nous faire visite, deux ou trois jours après, je vis qu'il avait des cheveux blancs qui bouclaient au-dessus de son cou, et que ses yeux et ses sourcils étaient très noirs. Il demanda à voir celle qui se préparait au catéchisme, et voulut savoir le nom de chacune. Sœur Marie-Aimée répondit pour moi. Elle dit en mettant sa main sur ma tête, « Celle-ci, c'est notre Marie-Claire. » Isméris s'approcha à son tour. Il la regarda avec une grande curiosité, la fit tourner le dos et marcher devant lui. Il compara sa taille à celle d'un bébé de 3 ans. Et comme il demandait à sœur Marie-Aimée si elle était intelligente, Isméris se retourna brusquement en disant qu'elle était moins bête que les autres. Il se mit à rire et je vis que ses dents étaient très blanches. Quand il parlait, il faisait un mouvement en avant, comme s'il voulait rattraper ses mots qui semblaient lui échapper malgré lui. Sœur Marie-Aimée le reconduisit jusqu'à la porte de la grande cour. Les autres fois, elle n'accompagnait les visiteurs que jusqu'à la porte de la salle. Elle reprit sa place sur son estrade et, au bout d'un moment, elle dit, sans regarder personne, « C'est un homme vraiment très distingué. » Notre nouveau curé habitait dans une petite maisonnette, tout près de la chapelle. Le soir, il se promenait dans les allées plantées de tilleuls. Il passait très près du carré de pelouse où nous jouions, et il saluait, en se courbant très bas, sœur Marie-Aimée. Tous les jeudis après-midi, il venait nous rendre visite. Il s'asseyait en s'appuyant au dossier de sa chaise, et, après avoir croisé les jambes l'une sur l'autre, il nous racontait des histoires. Il était très gai, et sœur Marie-Aimée disait qu'il riait de bon cœur. Il arrivait parfois que sœur Marie-Aimée était souffrante. Alors, il montait lui faire visite dans sa chambre. On voyait passer Madeleine avec une théière et 2 tasses. Elle était rouge et empressée. Quand l'été fut fini, monsieur le curé vint nous voir le soir après dîner. Il passait la veillée avec nous. À 9 heures sonnant, il nous quittait. Et sœur Marie-Aimée l'accompagnait toujours dans le couloir jusqu'à la grande porte. Il y avait déjà 1 an qu'il était avec nous, et je n'avais pu encore m'habituer à me confesser à lui. Souvent, il me regardait avec un rire qui me faisait croire qu'il se souvenait de mes péchés. Nous allions à confesse à jour fixe. Chacune passait à son tour. Quand il n'en restait plus qu'une ou deux avant moi, je commençais à trembler. Mon cœur battait à toute volée, et j'avais des crampes d'estomac qui me coupaient la respiration. Puis, mon tour arrivé, je me levais, les jambes tremblantes, la tête bourdonnante et les joues froides. Je tombais sur les genoux dans le confessionnal, et tout aussitôt, la voix marmottante et comme lointaine de monsieur le curé me rendait un peu de confiance. Mais il fallait toujours qu'il m'aidât à me rappeler mes péchés. Sans cela, j'en aurais oublié la moitié. À la fin de la confession, il me demandait toujours mon nom. J'aurais bien voulu en dire un autre, mais en même temps que j'y pensais, le mien sortait précipitamment de ma bouche. Le moment de la première communion approchait. Elle devait avoir lieu au mois de mai, et on commençait déjà les préparatifs. Sœur Marie-Aimée composait des cantiques nouveaux. Elle avait fait aussi une sorte de cantique à la louange de monsieur le curé. 15 jours avant la cérémonie, on nous sépara des autres. Nous passions tout notre temps en prière. Madeleine devait surveiller notre recueillement. mais il lui arriva plus d'une fois de le troubler en se disputant avec l'une ou l'autre. Ma camarade s'appelait Sophie. Elle n'était pas bruyante et nous nous éloignions toujours des disputes. Nous causions de choses graves. Je lui avouai mon aversion pour la confession et combien j'avais peur de faire une mauvaise communion. Elle était très pieuse et elle ne comprenait rien à mes appréhensions. Elle trouvait que je manquais de piété et elle avait remarqué que je m'endormais pendant la prière. Elle m'avoua à son tour qu'elle avait grand peur de la mort et elle en parlait d'un air craintif en baissant la voix. Ses yeux étaient presque verts et ses cheveux si beaux que sœur Marie-Aimée n'avait jamais voulu les lui couper comme aux autres petites filles. Enfin, le grand jour arriva. Ma confession générale n'avait pas été trop pénible. Cela m'avait donné à peu près la même impression qu'un bon bain. Je me sentais très propre. Cependant, je tremblais si fort en recevant l'hostie que mes dents en gardèrent une partie. J'eus un éblouissement et il me sembla qu'un rideau noir descendait devant moi. Je crus reconnaître la voix de sœur Marie-Aimée qui demandait « Es-tu malade ?» J'eus conscience qu'elle m'accompagnait jusqu'à mon prie-Dieu, qu'elle me mettait mon cierge dans la main en disant « Tiens-le bien !» J'avais la gorge si serrée qu'il m'était impossible d'avaler et je sentis qu'un liquide me coulait de la bouche. Alors une peur folle monta en moi, car Madeleine nous avait bien averti que s'il nous arrivait de mordre l'hostie, le sang de Jésus coulerait de notre bouche sans que rien ne pût l'arrêter. Sœur Marie-Aimée m'essuyait le visage et disait tout bas « Fais donc attention, voyons, es-tu malade ?» Ma gorge se desserra et j'avalai brusquement l'hostie avec un flot de salive. J'osai alors regarder le sang qui était sur ma robe, mais je ne vis qu'une petite tache, pareille à celle qu'aurait pu faire une goutte d'eau. Je portai mon mouchoir à mes lèvres et j'essuyai ma langue. Il n'y avait pas non plus de sang sur mon mouchoir. Je n'étais pas très sûr de tout cela, mais comme on nous faisait lever pour chanter, j'essayais de chanter avec les autres. Quand monsieur le curé vint nous voir dans la journée, sœur Marie-Aimée lui dit que j'avais failli m'évanouir pendant la communion. Il me releva la tête, et après m'avoir bien regardé dans les yeux, il se mit à rire et dit que j'étais une petite fille très sensible. Aussitôt que nous avions fait notre première communion, nous n'allions plus en classe. Bonne Justine nous apprenait à faire de la lingerie. Nous faisions des coiffes pour les paysannes. Ce n'était pas très difficile, et comme c'était quelque chose de nouveau, je travaillais avec ardeur. Bonne Justine déclara que je ferais une très bonne lingère. Sœur Marie-Aimée dit en m'embrassant, « Si seulement tu pouvais vaincre ta paresse !» Mais quand j'eus fait plusieurs coiffes, et qu'il me fallut toujours recommencer, ma paresse reprit vite le dessus. Je m'ennuyais, et je ne pouvais me décider à travailler. Je serais resté des heures et des heures sans bouger, à regarder travailler les autres. Marie-Renaud cousait en silence. Elle faisait des points si petits et si serrés qu'il fallait avoir de bons yeux pour les voir. Isméry cousait en chantonnant, sans crainte des réprimandes. Les unes cousaient, le dos courbé, le front plissé, avec des doigts mouillés qui faisaient crisser les aiguilles. D'autres cousaient lentement, avec soin, sans fatigue, sans ennui, en comptant les points, tout bas. J'aurais bien voulu être comme celle-là. Je me grondais en moi-même, et pendant quelques minutes, je les imitais. Mais le moindre bruit me dérangeait, et je restais à écouter ou regarder ce qui se passait autour de moi. Madeleine disait que j'avais toujours le nez en l'air. Je passais tout mon temps à imaginer des aiguilles qui auraient cousu toutes seules. Pendant longtemps, j'ai eu l'espoir qu'une gentille petite vieille, visible pour moi seulement, sortirait de la grande cheminée et viendrait coudre ma coiffe très vite. Je finis par devenir insensible aux reproches. Sœur Marie-Aimée ne savait plus que faire pour m'encourager ou me punir. Un jour, elle décida que je ferais la lecture, tout haut, deux fois par jour. Ce fut une grande joie pour moi. Je trouvais que l'heure de la lecture n'arrivait jamais assez vite, et je fermais toujours le livre avec regret. Après la lecture, sœur Marie-Aimée faisait chanter Colette, l'infirme. Elle chantait toujours les mêmes chansons, mais sa voix était si belle qu'on ne se lassait pas de l'entendre. Elle chantait simplement, sans quitter son ouvrage, en balançant seulement un peu la tête. Bonne Justine, qui savait l'histoire de chacune, racontait que Colette avait été apportée avec les deux jambes broyées quand elle était encore toute petite. Maintenant, elle avait 20 ans. Elle marchait péniblement avec 2 cannes et ne voulait pas se servir de béquilles, de peur d'avoir l'air d'une vieille. Pendant les récréations, je la voyais toujours seule sur un banc. Elle s'étirait sans cesse en se renversant en arrière. Ses yeux noirs avaient la prunelle si large qu'on ne voyait presque pas le blanc. Je me sentais attiré vers elle. J'aurais voulu être son amie. Elle paraissait très fière et, quand je lui rendis un petit service, elle avait une façon de me dire « Merci petite » qui me renvoyait tout de suite à mes 12 ans. Madeleine prit un air mystérieux pour me dire qu'il était bien défendu de parler seule avec Colette. Et quand je voulus savoir pourquoi, elle s'embrouilla dans une histoire longue et compliquée qui ne m'apprit rien du tout. Je m'adressai à bonne Justine, qui fit les mêmes simagrées pour me dire qu'on disait beaucoup de mal de Colette et qu'une petite fille comme moi ne devait pas s'approcher d'elle. Je ne pus jamais parvenir à comprendre pourquoi. À force de la regarder, je m'aperçus que, chaque fois qu'une grande lui donnait le bras pour la promener un peu, il en venait tout de suite 3 ou 4 qui causaient et riaient avec elle. Je pensais qu'elle n'avait pas d'amis. Une grande pitié s'ajouta au sentiment qui m'attirait vers elle, et un jour que les grandes la délaissaient, je lui offris mon bras pour faire le tour de la pelouse. J'étais debout, devant elle, un peu intimidé. Je sentais qu'elle ne refuserait pas. Elle me fixa, puis elle dit « Tu sais que c'est défendu ?» Je fis signe que oui. Elle eut un mouvement de la tête pour me fixer davantage. « Et tu n'as pas peur d'être puni ?» Je fis signe que non. J'avais une grande envie de pleurer qui me serrait la gorge. Je l'aidai à se lever. Elle s'appuyait d'une main sur une canne, et malgré cela, elle pesait sur moi de tout son poids. Je compris combien la marche lui était pénible. Elle ne me dit pas un mot pendant la promenade, et quand je l'eus ramenée à son banc, elle dit en me regardant « Merci Marie-Claire ». En me voyant avec Colette, bonne Justine avait levé les bras au ciel et faisait le signe de la croix. À l'autre bout de la pelouse, Madeleine braillait en me montrant le poing. Le soir, je vis bien que sœur Marie-Aimée savait ce que j'avais fait, mais elle ne m'en fit aucun reproche. Pendant la récréation suivante, elle m'attira sur son petit banc, elle prit ma tête dans ses 2 mains et se pencha sur moi. Elle ne me disait rien, mais ses yeux plongeaient dans tout mon visage. Il me semblait que j'étais enveloppé de ses yeux. J'en ressentais comme une chaleur et j'y étais à mon aise. Elle m'embrassa longuement au front, puis elle me sourit et dit « Va, tu es mon beau lys blanc ». Je la trouvais si belle avec ses yeux qui avaient des rayons de plusieurs couleurs que je lui dis « Vous aussi, ma mère, vous êtes une belle fleur ». Elle prit un ton dégagé pour me dire « Oui, mais je ne compte plus dans les lys ». Puis elle me demanda brusquement « Tu n'aimes non plus Ismérie ?»« Si, ma mère. »« Ah, eh bien, et Colette ?»« Je l'aime bien aussi. » Elle me repoussa « Oh toi, tu aimes tout le monde. » Presque chaque jour, j'offrais mon bras à Colette. Elle me parlait seulement pour faire quelques remarques sur l'une ou l'autre. Quand je m'asseyais près d'elle, elle me regardait curieusement. Elle trouvait que j'avais une drôle de figure. Un jour, elle me demanda si je la trouvais jolie. Aussitôt, je me rappelais que sœur Marie-Aimée disait qu'elle était noire comme une taupe. Je vis pourtant qu'elle avait un grand front, de grands yeux et le reste du visage tout mince. En la regardant, je ne sais pourquoi je pensais à un puits profond et noir qui aurait été plein d'eau chaude. Non, je ne la trouvais pas jolie, mais je n'osais pas le lui dire, parce qu'elle était infirme, et je répondis qu'elle serait bien plus jolie si elle avait la peau blanche. Petit à petit, je devenais son amie. Elle me confia qu'elle espérait s'en aller pour se marier, comme la grande Nina, qui venait nous voir le dimanche avec son enfant. Elle me tapait sur le bras en me disant « Vois-tu, moi, il faut que je me marie ». Elle s'étirait longuement, en tendant tout son corps en avant. Il y avait des jours où elle pleurait avec un chagrin si profond que je ne trouvais rien à lui dire. Elle regardait ses jambes toutes tortillées, et c'était comme un gémissement quand elle disait « Il faudrait un miracle pour que je puisse sortir d'ici ». Il me vint tout à coup l'idée que la Vierge pourrait faire le miracle. Colette trouva la chose toute simple. Elle était tout étonnée de n'y avoir pas encore songé. Il était si juste qu'il eût des jambes comme les autres. Elle voulut s'en occuper tout de suite. Elle m'expliqua qu'il fallait être plusieurs jeunes filles pour faire la neuvaine, que nous irions nous purifier par la communion, et que pendant 9 jours, nous ne cesserions pas de prier afin d'obtenir la grâce. Il fallait que cela fût dans le plus grand secret. Il fut convenu que ma camarade Sophie serait des nôtres, à cause de sa grande piété. Colette se chargeait d'en parler à quelques grandes qui avaient bon cœur. 2 jours après, tout fut réglé. Colette devait jeûner et faire pénitence pendant les 9 jours. Le 10e, qui serait un dimanche, elle irait communier, comme d'habitude, en se servant de sa canne et du bras de l'une de nous. Puis, l'hostie dans son cœur, elle ferait le vœu d'élever ses enfants dans l'amour de la Vierge. Après cela, elle se lèverait toute droite et entonnerait de sa voix magnifique le Te Deum que nous reprendrions en chœur. Pendant les 9 jours, je priais avec une ferveur que je n'avais jamais connue. Les prières ordinaires me semblaient fades. Je récitais les litanies de la Vierge, je cherchais les plus belles louanges et les répétais sans me lasser. Étoile du matin, guérissez Colette. La première fois, je restais si longtemps à genoux que sœur Marie-Aimée vint me gronder. Personne ne remarqua les petits signes que nous échangions, et la neuvaine se termina dans le plus grand secret. Colette était bien pâle quand elle vint à la messe. Ses joues étaient encore plus minces, elle se tenait les yeux baissés et ses paupières étaient toutes violettes. Je pensais que c'était la fin de son martyre, et une joie profonde me soulevait. Tout près de moi, une vierge vêtue d'une grande robe blanche souriait en me regardant, et dans un élan de toute ma foi, ma pensée lui cria « Miroir de justice, guérissez Colette !» Et les tempes serrées par la volonté de ne pas distraire ma pensée, je répétais « Miroir de justice, guérissez Colette !» Maintenant, Colette s'en allait communier. Sa canne faisait un petit bruit sec sur les dalles. Quand elle se fut agenouillée, celle qui l'avait accompagnée revint avec la canne, tant elle était sûre qu'elle serait inutile. Ce fut lamentable. Colette essaya de se mettre debout et retomba sur les genoux. Sa main tâtonna pour prendre sa canne et, ne la trouvant pas, elle fit un nouveau mouvement pour se lever. Elle se cramponna à la sainte table et s'accrocha au bras d'une sœur qui communiait près d'elle. Puis ses épaules balancèrent et elle s'écroula en entraînant la sœur. 2 des nôtres se précipitèrent et traînèrent la pauvre Colette jusqu'à son banc. Pourtant j'espérais encore, et jusqu'à la fin de la messe, j'attendis le Te Deum. Aussitôt que cela me fut possible, je rejoignis Colette. Elle était entourée des grandes, qui essayaient de la consoler en lui conseillant de se donner à Dieu pour toujours. Elle pleurait doucement, sans secousse, la tête un peu penchée, et ses larmes tombaient sur ses mains, qu'elle tenait croisées l'une sur l'autre. Je m'agenouillai devant elle, et quand elle me regarda, je lui dis « Peut-être qu'on peut se marier, malgré qu'on est infirme. » L'histoire de Colette fut bientôt connue de toute la maison. Il y eut une tristesse générale qui empêcha les jeux d'être bruyants. Ismérie croyait m'apprendre une grande nouvelle en me racontant la chose. Ma camarade Sophie me dit qu'il fallait se soumettre aux volontés de la Vierge parce qu'elle savait mieux que nous ce qui convenait au bonheur de Colette. J'aurais bien voulu savoir si sœur Marie-Aimée avait été avertie. Je ne la vis que dans l'après-midi, à l'heure de la promenade. Elle n'avait pas l'air triste. On aurait plutôt dit qu'elle était contente. Jamais elle ne m'avait paru aussi jolie. Tout son visage resplendissait. Pendant la promenade, je remarquai qu'elle marchait comme si quelque chose l'eût soulevée. Je ne me rappelais pas l'avoir vue marcher comme cela. Son voile s'envolait un peu aux épaules et sa guimpe ne cachait pas complètement son cou. Elle ne faisait aucune attention à nous, elle ne regardait rien, et on eût dit qu'elle voyait quelque chose. Par instants, elle souriait comme si quelqu'un lui eût parlé intérieurement. Le soir, après dîner, je la retrouvai assise sur un vieux banc qui touchait à un gros tilleul. Monsieur le curé était assis près d'elle, le dos appuyé contre l'arbre. Ils avaient l'air graves. Je croyais qu'ils parlaient de Colette, et je m'arrêtai à quelques pas d'eux. Sœur Marie-Aimée disait, comme si elle répondait à une question, « Oui, à 15 ans. » Monsieur le curé dit, « À 15 ans, on n'a pas la vocation. » Je n'entendis pas ce que répondit Sœur Marie-Aimée, mais monsieur le curé reprit, « À 15 ans, on a toutes les vocations. Il suffit d'un geste affectueux ou indifférent pour vous éloigner ou vous encourager dans une voie. » Il fit une pause et dit bien plus bas, « Vos parents étaient bien coupables. » Sœur Marie-Aimée répondit, « Je ne regrette rien. » Ils restèrent longtemps sans parler. Puis Sœur Marie-Aimée leva le doigt comme pour une recommandation et dit, « En tout lieu, malgré tout et toujours. » Monsieur le curé tendit un peu la main en riant et il dit aussi, « En tout lieu, malgré tout et toujours. » La cloche du coucher sonna tout à coup et monsieur le curé disparut dans les allées de Tilleul. Pendant longtemps, je me répétais les mots que j'avais entendus, mais jamais je ne pus les associer à l'histoire de Colette. Colette ne comptait plus sur un miracle pour s'en aller. Et pourtant, elle ne pouvait se résigner à rester dans cette maison. Quand elle vit partir, une à une, toutes celles qui avaient son âge, elle commença de se révolter. Elle ne voulut plus aller à confesse, ni communier. Elle allait à la messe parce qu'elle chantait et aimait la musique. Je restais souvent près d'elle pour la consoler. Elle m'expliquait que le mariage, c'était l'amour. Sœur Marie-Aimée, qui était souffrante depuis quelque temps, tomba tout à fait malade. Madeleine la soignait avec dévouement et nous dirigeait à tort et à travers. Elle s'acharnait particulièrement sur moi. Et quand elle me voyait lasse de coudre, elle disait en essayant de prendre un air hautain, « Puisque mademoiselle n'aime pas la couture, elle n'a qu'à prendre le balai. » Elle s'avisa un dimanche de me faire nettoyer les escaliers pendant l'heure de la messe. Nous étions en janvier. Un froid humide venant des couloirs montait les marches et pénétrait sous ma robe. Je balayais de toutes mes forces pour me réchauffer. Les sons de l'harmonium venaient de la chapelle jusqu'à moi. Par instants, je reconnaissais les notes aigres et perçantes de Madeleine et les éclats saccadés de monsieur le curé. Je suivais la messe d'après les chants. La voix de Colette monta tout à coup. Elle était forte et pure. Elle s'élargit, couvrit les sons de l'harmonium, domina tout, puis elle s'envola par-dessus les tilleuls, par-dessus les maisons, plus haut que le clocher. J'en ressentis un grand frisson, et quand la voix redescendit un peu tremblante, quand elle fut rentrée dans l'église et étouffée par les sons de l'harmonium, je me mis à pleurer avec des hoquets, comme une toute petite fille. Puis la voix pointue de Madeleine perça de nouveau, et je balayai à grands coups, comme si mon balai devait effacer cette voix qui m'était si désagréable. Ce jour-là, Sœur Marie-Aimée me fit appeler près d'elle. Il y avait bien 2 mois qu'elle n'était pas sortie de sa chambre. Elle commençait d'aller mieux, mais je remarquais que ses yeux ne brillaient plus du tout. Ils me faisaient penser à un arc-en-ciel presque fondu. Elle me fit raconter les petites histoires drôles qui s'étaient passées. Elle voulait sourire en m'écoutant, mais sa bouche ne se relevait que d'un seul côté. Elle me demanda aussi si je l'avais entendu crier. Oh oui, je l'avais entendu. C'était pendant sa maladie. Elle avait poussé des cris si épouvantables au milieu de la nuit que tout le dortoir en avait été réveillé. Madeleine allait et venait. On l'entendait remuer de l'eau. Et comme je lui demandais ce qu'avait Sœur Marie-Aimée, elle m'avait répondu tout en courant « Des douleurs ». J'avais aussitôt pensé que Bonne Justice avait aussi des douleurs, mais jamais elle n'avait crié comme cela, et j'imaginais les jambes de Sœur Marie-Aimée 3 fois plus enflées que celles de Bonne Justice. Les cris étaient devenus de plus en plus forts. Il y en avait eu un si terrible qu'il semblait lui sortir des entrailles. Ensuite, on avait entendu quelques plaintes, puis plus rien. Au bout d'un moment, Madeleine était venue parler à Marie Renaud. Aussitôt, Marie Renaud avait mis sa robe et je l'avais entendue descendre. Un instant après, elle était revenue avec monsieur le curé. Il était entré précipitamment dans la chambre de Sœur Marie-Aimée et Madeleine avait vite refermé la porte sur lui. Il n'était pas resté longtemps, mais il s'en était retourné bien moins vite qu'il n'était venu. Il marchait en baissant la tête, et sa main droite ramenait un pan de son manteau sur son bras gauche, comme s'il voulait préserver une chose précieuse. Je pensais qu'il remportait les saintes huiles, et je n'osais pas lui demander si Sœur Marie-Aimée était morte. Je n'avais pas oublié non plus le coup de poing que j'avais reçu de Madeleine lorsque je m'étais accroché à sa jupe. Elle m'avait renversé en disant très bas et très vite « Elle va mieux ». Le jour où Sœur Marie-Aimée fut guérie, Madeleine perdit son arrogance et tout rentra dans l'ordre. J'avais toujours la même répugnance pour la couture et Sœur Marie-Aimée commença à s'en inquiéter. Elle en parla devant moi à la sœur de Monsieur le curé. C'était une vieille demoiselle qui avait une longue figure et de grands yeux fanés. Elle s'appelait Mademoiselle Maximilienne. Sœur Marie-Aimée disait combien elle était inquiète de mon avenir. Elle trouvait que j'apprenais les choses avec une grande facilité, mais qu'aucun travail de couture ne m'intéressait. Elle avait remarqué depuis longtemps que j'aimais l'étude. Alors elle s'était informée s'il ne me restait pas quelques parents éloignés qui auraient pu se charger de moi. Mais il ne me restait qu'une vieille parente qui avait déjà adopté ma sœur et refusait de s'occuper de moi. Mademoiselle Maximilienne offrit de me prendre dans son magasin de mode. Monsieur le curé trouva que c'était une très bonne idée. Il ajouta qu'il se ferait même un plaisir de venir deux fois par semaine afin de m'instruire un peu. Sœur Marie-Aimée paraissait vraiment heureuse. Elle ne savait comment exprimer sa reconnaissance. Il fut convenu que j'entrerais chez Mademoiselle Maximilienne aussitôt que Monsieur le curé serait de retour d'un voyage qu'il devait faire à Rome. Sœur Marie-Aimée allait s'occuper de mon trousseau et Mademoiselle Maximilienne irait trouver la supérieure pour obtenir la permission. L'idée que la supérieure allait s'occuper de moi me causa un véritable malaise. Je ne pouvais m'empêcher de penser au mauvais regard qu'elle lançait de notre côté quand elle passait près du vieux banc où venait s'asseoir Monsieur le curé. Aussi j'attendais avec impatience la réponse qu'elle donnerait à Mademoiselle Maximilienne. Monsieur le curé était parti depuis une semaine, et Sœur Marie-Aimée m'entretenait chaque jour de mon nouvel emploi. Elle me disait combien elle serait contente de me voir le dimanche. Elle me faisait 1000 recommandations et me donnait toutes sortes de conseils au sujet de ma santé. Un matin, la supérieure me fit demander. En entrant chez elle, je vis qu'elle était assise dans un grand fauteuil rouge. Des histoires de revenants que j'avais entendu raconter sur elle me revinrent à la mémoire. Et à la voir toute noire au milieu de tout ce rouge, je la comparais à un monstrueux pavot qui aurait poussé dans un souterrain. Elle abaissa et releva plusieurs fois les paupières. Elle avait un sourire qui ressemblait à une insulte. Je sentis que je rougissais très fort, et malgré cela, je ne détournais pas les yeux. Elle eut un petit ricanement et dit « Vous savez pourquoi je vous ai fait appeler ?» Je répondis que je pensais que c'était pour me parler de Mademoiselle Maximilienne. Elle ricana encore. « Ah oui, Mademoiselle Maximilienne, eh bien, détrompez-vous. Nous avons décidé de vous placer dans une ferme de la Sologne. » Elle ferma ses yeux à demi pour me dire « Vous serez bergère, mademoiselle. » Et elle ajouta, en appuyant sur les mots, « Vous garderez les moutons. » Je dis simplement, « Bien, ma mère. » Elle remonta des profondeurs de son fauteuil et demanda, « Vous savez ce que c'est que garder des moutons ?» Je répondis que j'avais vu des bergères dans les champs. Elle avança vers moi sa figure jaune et reprit, « Il vous faudra nettoyer les étables. Cela sent très mauvais. » Et les bergères sont des filles mal propres. Puis, vous aiderez aux travaux de la ferme. On vous apprendra à traire les vaches et à soigner les porcs. Elle parlait très fort, comme si elle craignait de n'être pas comprise. Je répondis comme tout à l'heure, « Bien, ma mère. » Elle se haussa sur les bras de son fauteuil, et, en me fixant de ses yeux luisants, elle dit encore, « Vous n'êtes donc pas fière ?» Je souris d'un air indifférent. « Non, ma mère. » Elle parut profondément étonnée, mais comme je continuais de sourire avec indifférence, sa voix devint moins dure pour me dire « Vraiment, mon enfant ? J'avais toujours cru que vous étiez orgueilleuse. » Elle se renfonça dans son fauteuil, cacha ses yeux sous ses paupières et se mit à parler d'une voix monotone, comme quand elle récitait les prières. Elle disait qu'on devait obéir à ses maîtres, ne jamais manquer à ses devoirs de religion et que la fermière viendrait me chercher la veille du jour de la Saint-Jean. Je sortis de chez elle avec des sentiments que je n'aurais pu exprimer. Mais ce qui dominait en moi, c'était la crainte de faire de la peine à Sœur Marie-Aimée. Comment lui dire cela? Je n'eus guère le temps de la réflexion. Elle m'attendait à l'entrée de notre couloir. Elle me saisit aux épaules, et, en baissant son visage vers le mien, elle dit « Eh bien ?» Elle avait un regard inquiet qui commandait la réponse. Je dis tout de suite « Elle ne veut pas, et je serai bergère. » Elle ne comprit pas. Elle fronça les sourcils. « Comment cela, bergère ?» Je repris très vite. Elle m'a trouvé une place dans une ferme, et puis je trairai les vaches et je soignerai les porcs. Sœur Marie-Aimée me repoussa si violemment que je me cognai au mur. Elle s'élança vers la porte. Je crus qu'elle courait chez la supérieure, mais elle ne fit que quelques pas dehors. Elle rentra et se mit à marcher à grands pas dans le couloir. Elle serrait les poings et frappait du pied. Elle tournait sur elle-même et respirait fortement. Puis elle s'adossa contre le mur, laissa tomber ses bras comme si elle était accablée, et, d'une voix qui semblait venir de loin, elle dit « Elle se venge. Ah oui, elle se venge. » Elle revint vers moi, me prit affectueusement les mains et demanda « Tu ne lui as donc pas dit que tu ne voulais pas ? Tu ne l'as donc pas supplié de te laisser aller chez Mademoiselle Maximilienne ?» Je secouai la tête pour dire non, et je répétai tout à la file et avec les mêmes mots tout ce que m'avait dit la supérieure. Elle m'écouta sans m'interrompre. Puis elle me recommanda le silence auprès de mes compagnes. Elle pensait que cela s'arrangerait aussitôt que monsieur le curé serait de retour. Le dimanche suivant, comme nous prenions nos rangs pour la messe, Madeleine entra comme une folle dans la salle. Elle leva les bras en criant « Monsieur le curé est mort !» et elle s'abattit en travers de la table qui était auprès d'elle. Tous les bruits s'arrêtèrent. On courut à Madeleine qui poussait des cris aigus. On voulait tout savoir. Mais elle se berçait sur la table en disant d'une voix désolée « Il est mort, il est mort !» Je ne pensais à rien. Je ne savais pas si j'avais de la peine. Et pendant tout le temps de la messe, la voix de Madeleine sonna comme une cloche à mes oreilles. Il ne fut pas question de promenade ce jour-là. Les plus petites même restèrent silencieuses, et je me mis à la recherche de sœur Marie-Aimée. Elle n'avait pas assisté aux offices, et je savais par Marie-Renaud qu'elle n'était pas malade. Je la trouvai dans le réfectoire. Elle était assise sur son estrade, sa tête était appuyée de côté sur la table, et ses bras pendaient le long de sa chaise. J'allais m'asseoir assez loin d'elle. Et d'entendre sa plainte si profonde, je me mis à sangloter aussi, en cachant ma figure dans mes mains. Mais cela ne dura pas longtemps, et je sentis bien que je n'avais pas de chagrin. Je fis même des efforts pour pleurer, mais il me fut impossible de continuer à verser une seule larme. J'avais un peu honte de moi, parce que je croyais qu'on devait pleurer quand quelqu'un mourait. Et je n'osais pas découvrir mon visage dans la crainte que sœur Marie-Aimée crût que j'avais mauvais cœur. Maintenant, je l'écoutais pleurer. Ses longues plaintes me rappelaient le vent d'hiver dans la grande cheminée. Cela montait et descendait comme si elle eût voulu composer une sorte de chant. Puis cela se heurtait, se cassait et finissait en notes basses et tremblées. Un peu avant l'heure du dîner, Madeleine entra dans le réfectoire. Elle emmena sœur Marie-Aimée en la soutenant avec précaution. Dans la soirée, elle nous raconta que monsieur le curé était mort à Rome et qu'on allait le ramener pour le mettre dans son caveau de famille. Le lendemain, sœur Marie-Aimée s'occupa de nous comme d'habitude. Elle ne pleurait plus, mais elle ne souffrait pas qu'on lui parlât. Elle marchait en regardant la terre et paraissait m'avoir oublié. Cependant, je n'avais plus qu'un jour à rester ici. D'après ce que m'avait dit la supérieure, la fermière viendrait me chercher demain, puisque c'était après-demain le jour de la Saint-Jean. Le soir, à la fin de la prière, lorsque sœur Marie-Aimée eut dit « Seigneur, prenez en pitié les exilés et secourez les prisonniers », elle ajouta à voix très haute « Nous allons dire une prière pour une de vos compagnes qui s'en va dans le monde ». Je compris tout de suite qu'il s'agissait de moi et je me trouvais aussi à plaindre que les exilés et les prisonniers. Il me fut impossible de m'endormir ce soir-là. Je savais que je partirais demain. Mais je ne savais pas ce que c'était que la Sologne. J'imaginais un pays très éloigné où il n'y avait que des plaines toutes fleuries. Je me voyais la gardienne d'un troupeau de beaux moutons blancs et j'avais deux chiens à mes côtés qui n'attendaient qu'un signe pour faire ranger les bêtes. Je n'aurais pas osé le dire à sœur Marie-Aimée, mais en ce moment, je préférais être bergère plutôt que demoiselle de magasin. Ismery, qui ronflait très fort à côté de moi, ramena ma pensée vers mes compagnes. La nuit était si claire que je voyais distinctement tous les lits. Je les suivais un à un, et je m'arrêtais un peu près de celle que j'aimais. Presque en face de moi, je voyais les magnifiques cheveux de ma camarade Sophie. Ils s'éparpillaient sur l'oreiller et faisaient davantage de clarté sur son lit. Un peu plus loin, c'étaient les lits de Cheminot l'Orgueilleuse et de sa sœur jumelle, Cheminot la Bête. Cheminot l'Orgueilleuse avait un grand front blanc et lisse et de grands yeux doux. Elle ne se défendait jamais quand on l'accusait d'une faute. Elle haussait les épaules et regardait autour d'elle avec mépris. Sœur Marie-Aimée disait que sa conscience était aussi blanche que son front. Cheminot la Bête était de moitié plus haute que sa sœur. Ses cheveux rudes rejoignaient presque ses sourcils. Elle était carrée des épaules et large des hanches. Nous l'appelions le chien de garde de sa sœur. Et tout là-bas, à l'autre bout du couloir, il y avait Colette. Elle croyait toujours que j'allais chez Mademoiselle Maximilienne. Elle était persuadée que je me marierais très jeune et elle m'avait fait promettre de venir la chercher aussitôt que je serais mariée. Ma pensée tourna longtemps autour d'elle. Puis je regardai vers la fenêtre. Les ombres des tilleuls s'allongeaient de mon côté. J'imaginais qu'ils venaient me dire adieu et je leur souriais. De l'autre côté des tilleuls, j'apercevais l'infirmerie. Elle paraissait se reculer et ses petites fenêtres me faisaient penser à des yeux malades. Là aussi, je m'arrêtais à cause de la sœur Agathe. Elle était si gaie et si bonne que les petites filles riaient toujours quand elle les grondait. C'était elle qui faisait les pansements. Quand on venait la trouver pour un bobo au doigt, elle nous recevait avec des mots drôles. Et selon qu'on était gourmande ou coquette, elle promettait un gâteau ou un ruban qu'elle désignait d'un vague signe de la tête. Et pendant que le regard cherchait le gâteau ou le ruban, le bobo se trouvait percé, lavé et pansé. Je me souvenais d'une engelure que j'avais eue au pied et qui ne voulait pas se guérir. Un matin, sœur Agathe m'avait dit d'un air grave: « Écoute, je vais t'y mettre quelque chose de divin, et si ton pied n'est pas guéri dans 3 jours, on sera obligé de te le couper. » Et pendant 3 jours, j'avais évité de marcher pour ne pas déranger cette chose divine qui était sur mon pied. Je pensais à un bout de la vraie croix ou à un morceau du voile de la Vierge. Le 3e jour, mon pied était complètement guéri, et quand je demandais le nom de ce remède merveilleux, sœur Agathe me répondit avec un rire malicieux: « Bête, c'était de l'onguen Arthur divin !» La nuit était très avancée quand je m'endormis, et dès le matin, j'attendis la fermière. J'aurais voulu qu'elle vînt, et j'avais peur de la voir venir. Sœur Marie-Aimée relevait brusquement la tête chaque fois que quelqu'un ouvrait la porte. Comme nous finissions de dîner, la portière vint demander si j'étais prête à partir. Sœur Marie-Aimée la renvoya en disant que je serais prête dans un instant. Elle se leva en me faisant signe de la suivre. Elle m'aida à m'habiller, me remit un petit paquet de linge et dit tout à coup: « C'est demain qu'on le ramène et tu ne seras plus là. » Elle reprit en me regardant dans les yeux: « Jure-moi que tu diras tous les soirs un De Profondis pour lui. » Je jurai. Alors elle me serra avec violence sur sa poitrine et elle se sauva vers sa chambre. Puis j'entendis qu'elle disait: « Oh, c'est trop, mon Dieu, c'est trop. » Je traversai la cour toute seule, et la fermière qui m'attendait m'emmena aussitôt.